Quel est ton nom? Est-ce que les ours ont un nom?
Bien sûr. Mon nom est...
CO2, mon amour.
Je te demande pardon. Bien.
Allez-y. Essayez. Du front de la gorge.
Denis Chessou.
Monsieur Brown, c'est extrêmement grossier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, en direct de Pau, de France Bleu Pau Béarn, qui nous accueille. Jacques Lemaire est à la technique et à Paris, c'est Alain Gadan et Pauline Laverdure. Claire Destacan est notre assistante et c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors, ce qu'il y a de bien avec les loups, eh bien, c'est qu'ils captent tellement l'attention médiatique en ce moment qu'on en oublierait presque les ours. Ce qui fait que, profitant momentanément qu'on leur lâche les myrtilles, ils en profitent pour prendre un peu de repos loin des projecteurs. C'est comme pour le lynx, hein, ça fait tellement longtemps qu'il ne fait plus en première page la une ou la haine des journaux, et eh ben ça repose. On finit d'ailleurs par douter qu'il existe encore à faire son boulot pépère de prédateur du dimanche dans quelques bois du Jura ou bien des Vosges. Alors le trousse, lui, parce que c'est vraiment, il s'agit de lui aujourd'hui, sait très bien reconnaître, on va dire, des champignons, mais plus sûrement les glands, les baies sauvages. Ça, vous pouvez donc lui faire confiance. Il boulotte quand même beaucoup de choses. Hein.
Il faudrait qu'il mange des camions.
Ah, d'accord, ça c'est Christian Laborde qui vient effectivement d'intervenir. Alors, donc, il ne va pas chez son pharmacien hein, pour présenter sa cueillette s'il a un doute, pas du tout. Il aime aussi les camions, je ne sais pas encore, mais les couvains de ruches qui sont pleins de jeunes protéines. Or, s'il est bien une chose, on rêve tous ces beaux matous et toutous et plantigrades de race blanche, quoique un peu trop poilus hein, pour ne pas être suspect, c'est qu'on les oublie donc un peu, qu'on leur fiche une bonne fois la paix. Et quand les hommes s'étripent, en général, eh ben c'est ce qui se passe. Ils changent de bouc émissaire, on en a donc peut-être pour un bon moment de relative tranquillité. Alors j'espère que vous allez un petit peu mieux que le budget du ministère de l'Environnement qui a perdu des plumes, que celui de l'ADEME, que celui de l'aide au développement. Ici tout va bien, donc il y a du soleil. Et alors on va profiter aussi de cet instant pour retrouver un homme moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joël Collado. Bonjour cher Joël Collado.
Oui, bonjour cher Denis. Ouais.
Alors, ingénieur Météo France, et j'avais envie de vous demander quelles étaient aussi, avant de se lancer sur notre boulevard des ours, quelles étaient en fait les caractéristiques du réchauffement climatique dans le sud-ouest et en Midi-Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'en fait, les températures sur l'ensemble de la France, évidemment, montent, mais c'est encore plus net, hein, vraiment sur le sud-ouest et le Midi-Pyrénées. Voilà.
Oui, absolument, oui. C'est encore beaucoup plus net, effectivement, sur ce quart sud-ouest de la France, et en particulier sur Midi-Pyrénées, car l'air chaud, on ne le fabrique pas, hein, on l'importe, il arrive d'Espagne, et en franchissant la barrière pyrénéenne, c'est-à-dire par un flux de sud, cet air chaud devient encore plus chaud quand il arrive sur les plaines du sud-ouest, et donc le réchauffement climatique, le changement climatique, était beaucoup plus net sur le sud-ouest que sur le reste de la France.
Alors, quand on regarde les glaciers, là aussi, c'est extrêmement impressionnant.
Ah là là, catastrophique. Alors, c'est l'association Moraine qui m'a permis d'avoir... Le nombre de glaciers, alors ils étaient 107 glaciers en 1850 et on en compte actuellement 31. Alors ils sont de très très petite taille puisque ces glaciers recouvraient en 1850 à peu près 21 km² sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées et qu'en 2011, il ne restait plus que 3 km² de glaciers sur la chaîne pyrénéenne. Donc de tout petits glaciers qui sont suivis par cette association Moraine.
Alors évidemment, la neige, ça veut dire qu'elle tombe dans la même quantité mais la durée d'enneigement est plus courte, hein, c'est ça l'idée.
Oui,
et quand
ça.
On regarde l'environnement, comment ça se traduit, Joël?
Ah, ça se traduit par des changements qui sont peut-être imperceptibles, mais qui sont déjà présents depuis quelques années, avec une modification des insectes, des parasites, la modification du cycle des oiseaux, par exemple, la modification sur l'agriculture qui va être de plus en plus présente, la modification sur la date des vendanges. La date des vendanges est à peu près de 15 jours plus tôt que par le passé, donc réchauffement climatique qui est comme un peu partout. C'est peut-être un peu plus fort encore sur la Bourgogne, parce que la partie ouest de la région Midi-Pyrénées bénéficie encore du vent océanique qui a tendance à atténuer un peu pour les périodes de vendange les effets de la chaleur. Oui.
Alors je vous ai parlé évidemment du gave de Pau. Quand on parle du débit annuel des cours d'eau, comment ça va se traduire?
40 à 50% de moins, ça va être beaucoup. Alors, les précipitations, ça va pas beaucoup changer, voire même un peu augmenter, mais c'est la durée pendant laquelle vont tomber ces précipitations qui sera beaucoup plus courte. Et donc, pendant la période estivale, les cours d'eau seront beaucoup plus bas, et beaucoup plus bas, beaucoup plus tôt également, durant la période estivale.
Alors, on est dans une région de maïs, on le sait ici. Les périodes de sécheresse vont être plus longues. Est-ce que ça va entraîner donc des problèmes pour les cultures ?
Alors les problèmes pour les cultures, pour le maïs en particulier, c'est un peu particulier pour cette culture tropicale qui a besoin effectivement d'un temps chaud et de beaucoup d'eau. Si la température augmente, et ça a été le cas ces dernières décennies d'un degré, la production, le rendement du maïs est fonction bien sûr de ce réchauffement, mais si cette température augmente d'un degré, le rendement lui augmente. Mais à partir du moment où le réchauffement va continuer à se poursuivre, là le rendement va nettement diminuer, et on estime que vers 1,5 degré, 2 degrés de plus, là le rendement sera de plus en plus bas, et donc des difficultés effectivement pour la culture du maïs dans le sud-ouest.
Alors on le voit déjà, donc l'augmentation de cette température, ça favorise peut-être les ravages des parasites, hein, des maladies des plantes.
Oui, absolument. Il y a plein de parasites qui n'existaient pas dans le passé. Alors, il y a des parasites qui sont importés, hein. Il y a la cicadelle, par exemple, qui vient d'Italie. Il y a le frelon asiatique qui se plaît bien chez nous et qui est maintenant resté.
Lui est arrivé par bateau.
La cicadelle aussi, elle est arrivée certainement par bateau. Il y a plein d'insectes qui sont arrivés, mais ils s'adaptent, ils restent, ils prolifèrent. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur ces parasites-là, sur la végétation, mais ils sont là et ils prolifèrent. Et ils sont bien liés à ce changement climatique qui se met en place.
Alors, vous nous l'avez dit au début, mais quand même, j'ai envie qu'on boucle là-dessus. Pourquoi, en fait, ces régions, c'est-à-dire l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées, avant qu'elles changent complètement de nom, sont les plus chaudes de France, on va dire, en climat? Vous avez parlé donc de cet effet de Sun, c'était avec la barrière des Pyrénées. Rappelez-nous comment ça fonctionne.
Effet de Fun, F-O-E-H-N. Donc, cet air chaud, si vous voulez, il est fabriqué un peu sur l'Espagne. C'est là que les vagues de chaleur prennent naissance, si j'ose dire. Donc des étés qui sont de plus en plus précoces, de plus en plus caniculaires, ça a été le cas cette année. Hein. Première vague de chaleur, c'était fin mai, début juin, donc vague de chaleur très précoce. Et puis après, elle remonte vers le nord et en franchissant la chaîne des Pyrénées, cet air chaud se soulève. Et quand il arrive de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, il se comprime. Et quand on comprime de l'air, eh ben, on le réchauffe. Donc si les températures étaient déjà élevées sur l'Espagne, elles sont encore plus élevées sur le sud-ouest. Et ces vagues de chaleur, elles sont de plus en plus fréquentes et deviendront de plus en plus fréquentes dans le futur.
Un grand merci, cher Joël, pour cette pédagogie absolument parfaite, comme vous le faites d'habitude. Voilà.
Merci.
Mais alors, restez avec nous, parce qu'il y a un homme qui vous a écouté, évidemment, avec le vent. Et lorsque je vous dis la balaguère. Alors, la balaguère, c'est un vent du sud qui aussi est parfois chargé de sable. Et puis aussi, c'est le nom, en fait, d'une entreprise indépendante de marcheurs depuis déjà 30 ans. Et la balaguère fête ses 30 ans dans ce très beau, très bel endroit qui est le Val d'Azun. On va d'ailleurs y revenir aussi avec un reportage avec un éleveur de brebis. Et donc, cher Vincent Fonviel, vous fêtez cette balaguère. Bonjour Vincent Fonviel.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes là donc à Reims chez vous, et c'est vrai qu'on part avec vous aux quatre coins du monde, si tant est que le monde est des coins, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous sensibilisez les gens donc à l'environnement, lorsque l'on est marcheur en général, c'est ça?
Oui, bien sûr. Mais permettez-moi juste une seconde de remercier Joël Collado pour la pédagogie sur l'effet de Fun, parce que justement, la balaguère, c'est le nom du vent du sud et finalement, c'est le nom de l'effet de Fun. Donc merci, j'ai appris des choses sur le nom de la balaguère.
Ben voilà.
Pour revenir à ce que vous disiez, bien sûr, oui, nous emmenons voyager, marcher tout un tas de gens avec des accompagnateurs qui sont des professionnels et dont le premier souci est justement de faire de la pédagogie de l'environnement et d'apprendre le code de bonne conduite, on va dire, sachant que les environnements sont différents d'un pays à l'autre, bien sûr.
Et alors vous êtes aussi le président de l'association ATD, qui signifie Agir pour un tourisme durable. Alors c'est pas très simple, parce qu'évidemment on est en pleine contradiction, j'allais dire. Lorsque l'on envoie des gens donc aux quatre coins du monde, ça veut dire que l'on va prendre un avion, c'est-à-dire que l'on va prendre des moyens avec des énergies fossiles. Comment on essaye de gérer ça? Parce que j'imagine bien que les différents opérateurs du tourisme se posent des questions.
Alors, j'ai une petite correction. Il s'agit de l'association ATR.
ATR,
pour
pardon.
Le tourisme responsable.
Responsable,
bon,
voilà.
Et s'il devient, à force d'être responsable, s'il devient durable, eh bien, tant mieux, on aura progressé. Alors, effectivement, comme vous le dites, on est dans une espèce de contradiction, puisqu'on est des gros pollueurs à partir du moment où on prend l'avion. Mais on peut toujours, mesurer nos émissions, et on peut essayer de réduire, et puis on peut compenser. Hein, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Mais au-delà du trajet en avion, il y a aussi tout l'impact que l'on a, qu'ont tous les marcheurs sur leur environnement à terre. Et c'est là aussi qu'on essaye de progresser et de faire prendre conscience à nos partenaires au bout du monde, pour qui souvent l'environnement, eh bien, c'est pas leur souci premier.
Hein.
On essaye de leur faire prendre conscience que c'est important, en tout cas que c'est important pour nos marcheurs à nous, et donc on essaye de les faire évoluer, de les faire progresser.
Il y a du chemin, c'est le cas de le dire là aussi, que ce soit au niveau des transports, au niveau de l'assiette. Merci beaucoup Vincent Fonvielle, et puis donc vraiment très bel anniversaire aux 30 ans de la Balaguère. J'ai aussi une pensée, parce que vous êtes dans le village de Robert Arnault, qui était un formidable producteur sur France Inter, un formidable conteur, et qui est enterré donc là-bas. Donc on pense aussi à lui. Et là, je vais me tourner vers Jean-Jacques Camara, que vous connaissez, et qui est avec nous. Bonjour Jean-Jacques Camara.
Bonjour Denis.
Voilà, vous êtes avec nous en studio. Vous êtes coordinateur du réseau Ours à l'ONCFS, autrement dit l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Et donc, on va parler évidemment ours avec vous. L'histoire de l'ours et des Pyrénées, ça s'emboîte depuis combien de temps, cette affaire ?
De l'ours des Pyrénées, et de l'ours et de l'homme aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est ça l'histoire dans les Pyrénées, c'est que homme et ours sont liés depuis très longtemps. On pourrait dire que homme et ours ont des relations d'alter ego depuis très longtemps, des relations presque conjugales, c'est depuis des centaines de milliers d'années. Et je crois qu'un homme préhistorique qui vivait dans les Pyrénées il y a très longtemps avait sûrement la même impression, ressentait la même chose quand il voyait un ours que nous, aujourd'hui, nous pouvons le ressentir, nous, hommes modernes, nous, ce que nous voyons un ours dans
la montagne. Mais on n'a pas eu de rupture. Hein, contrairement
au
loup, qui
a été
effectivement bien dégagé en France dans les années à peu près 25, années 30. Donc il y a eu une rupture totale. Là, il n'y a pas eu de rupture avec l'ours.
Non, le point bas a été en 95. C'était la veille de la réintroduction qui a été faite dans les Pyrénées centrales, qui a été réalisée en 96-97. Et là, il restait 5 à 6 ours pyrénéens.
Oui.
Et puis aujourd'hui, grâce à la réintroduction, il y a une augmentation de la population, bien sûr. Mais on a eu un point bas à cette époque-là, bien sûr.
Alors donc, on va en parler avec vous. On aura aussi donc un éleveur en reportage. Christian Laborde nous a rejoint, également écrivain, avec sa poésie derrière. Et moi, je vous propose de partir en musique. Et il nous fallait bien l'ours. Eh bien oui, ça vous dit quelque chose, Balou ? Bien sûr. Allez, le livre de la jungle.
CO2, mon amour. Sur France Inter.
Bonsoir.
Nous voilà. Qu'est-ce que j'entends ?
On dirait Oscar qui s'énerve.
Je descends mettre de l'ordre, patron.
Oui, vas-y, tonton.
Mon échelle et hop, j'arrive. Oh, mais... Pom, 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 pom.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too.
What?
man's red fire.
But I don't know how to make fire.
Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Oui, c'était Louis Prima choisi avec Thierry Dupin et Wanna Be Like You. Donc on s'est dit que quand même au pays des ours c'était formidable, une émission entièrement consacrée aux ours avec Jean-Jacques Camara et aussi avec Christian Laborde qui se réjouit. Bonjour cher Christian Laborde.
Bonjour Denis.
Alors
bonjour.
Christian Laborde, on va rappeler que vous êtes alors un écrivain, vous êtes un promeneur céleste sur les crêtes pyrénéennes, là où passent on va dire des cyclistes mais aussi des ours, parce que l'on vous doit un dictionnaire amoureux du Tour de France de toute beauté. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques temps vous aviez écrit Danse avec les ours. Alors ça nous intéresse bien de savoir ce que le petit gamin d'Oreillan dans la Bigorre, dans ses chemins justement un peu escarpés, l'ours c'était quoi dans votre représentation ?
C'était un personnage de mon enfance puisqu'il était présent dans les contes populaires. Et ma grand-mère me racontait des histoires dans lesquelles l'ours était présent et je me rappelle qu'il s'appelait d'ailleurs Pedescao, c'est-à-dire celui qui va pieds nus. On l'appelait aussi grand-père. C'est une histoire de famille, l'ours. Je l'ai rencontré ainsi dans la parole populaire. Ensuite, je l'ai retrouvé sur le buste sur les maillots de rugby de Tarbes, puisque l'emblème du Stade Auceste Tarbais des glorieux Jean du Pipi ou du Puy, c'était l'ours. Et donc, je l'ai rencontré ainsi, même sur les boîtes de biscuits de mon enfance. Je me rappelle de ces boîtes bleues de biscuits, La Tapie, une vieille marque pyrénéenne. Il y avait un ours dessus. Et donc, il a toujours été là dans les histoires. Je ne le voyais pas, évidemment, je ne le croisais pas dans mes chemins, mais dans mon imagination, il était là. Et puis, j'avais toujours ce nom de grand-père qu'on lui avait donné. Et donc, quand en 1992, j'écris Danse avec les ours, je me rends bien compte que ce que l'on fait subir à l'ours va nous arriver à nous après, puisque c'est le grand-père que l'on frappe et ensuite ça sera l'enfant. Donc je me suis révolté contre ces projets de tunnel du Somport et autres, au nom justement de mon enfance et au nom de ce que l'ours a porté. Enfin, dernier point, c'est un bel animal, c'est une leçon de style, l'ours quand il se déplace. Et donc si l'ours disparaît, on perd un peu de beauté. Et donc la perte de la beauté, ça c'est grave pour l'aventure humaine pour l'homme.
Et alors, Christian Laborde, c'est bien pour cela que vous ne pouvez pas imaginer les Pyrénées sans ours pour vous. Jean-Jacques Camara, d'ailleurs, non plus, parce que Jean-Jacques Camara, je le rappelle, donc coordinateur du réseau ours à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc, vous suivez, vous faites un suivi biologique, vous êtes un scientifique depuis de très, très nombreuses années. Vous avez d'ailleurs aussi écrit un formidable bouquin qui s'appelle Le boulevard des ours aux éditions Milan. Puis vous dites que c'est d'abord pour le bien des hommes, en fait, que vous faites ce boulot. Alors, vous le faites, c'est formidable parce que là, on est face à un homme qui a vu l'ours et non pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Donc ça, vous l'avez vu, vous êtes allé au Kamchatka, vous êtes allé dans le Grand Nord, mais vous l'avez vu aussi donc à côté. Là, si on se retourne, on est sur le boulevard des Pyrénées, mais le boulevard des ours, c'est pas si loin que ça. On en a combien d'ours aujourd'hui alors ?
2015, c'est difficile de dire parce qu'il faut une année pour compter les ours. Hein, donc c'est un travail que je fais pas seul. Il y a une équipe technique ours, donc de l'Office national de la chasse, qui travaille sur l'ensemble des Pyrénées. On peut dire que selon les résultats qu'on a obtenus en 2014, on a repéré 31 ours en 2014, donc sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, que ce soit au versant français ou au versant espagnol, parce que, comme on le sait, les ours n'ont pas de nationalité, ni ne connaissent pas les frontières, bien évidemment. Ils sont des animaux à vaste domaine vital, donc ils peuvent aller très très loin d'un côté ou de l'autre. Donc 31 ours, et donc il y en avait en 96, 97, 95, disons, il y en avait 5-6, et puis là, avec les réintroductions successives, il y en a eu donc de 98 à 2005, la population a augmenté un petit peu, elle a stagné, puis en 2006 il y a eu une réintroduction et là la population a redécollé un petit peu. Voilà. Géographiquement, la population d'ours se répartit en deux noyaux, si on peut dire, un noyau des Pyrénées centrales, mm-hmm. où il y a 29 ours, enfin...
Là ça veut dire en gros c'est le département de l'Ariège, Haute-Garonne, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées.
Et puis le partie est des Hautes-Pyrénées, voilà. Et puis le versant espagnol avec le Val d'Aran et la Catalogne et une petite partie de l'Aragon. Et il y a une deuxième zone qui sont les Pyrénées occidentales, qui est en fait le canal historique, si on peut dire, la zone historique de l'ours, oui. Où il y avait l'ours des Pyrénées dans cette zone-là, où maintenant restent deux ours dans cette zone-là, deux ours qui sont deux ours mâles, le père et le fils, qui s'entendent relativement bien.
Oui,
qui
habitent... mais ils ne vont pas se reproduire,
bon,
a priori. Hein,
voilà, bon, oui. Alors ça, se reproduire, bien sûr, de mâles, c'est non, compliqué. C'est des femelles, bon, elles sont assez loin quand même, donc on ne peut pas les attendre dans l'immédiat, dans ces zones-là. Donc voilà, ces ours-là ont respectivement 11 ans et 17 ans, donc ils ont environ 15 ans de vie, encore 20 ans. Voilà, donc la population telle qu'on peut la décrire aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une bonne reproduction dans les Pyrénées centrales. Il y a plusieurs femelles qui se reproduisent en moyenne. Il y a 3, peut-être 4 portées au cours des dernières années. Là. C'est relativement intéressant de voir ça. Et donc une bonne survie. Enfin, les Pyrénées sont des montagnes qui sont très, très favorables pour la conservation de l'ours.
On rappelle que notre ours, il est omnivore. Je le disais au début de mon petit papier d'introduction, contrairement au loup qui est complètement carnivore, mais il est omnivore celui-là, l'ours.
C'est un opportuniste. Donc il va prendre tout ce qu'il trouve. Et il peut très bien rester végétarien pendant plusieurs mois ou être très carnivore pendant quelques temps. Ça dépend de l'opportunité des rencontres. Alors évidemment, si vous avez une forte production de myrtilles, de glands, de fen, il va manger énormément de ces végétaux. Si par contre il a la possibilité de se retrouver en face de troupeaux de brebis en particulier, bon, qui sont dispersés dans la montagne, mais là il peut être tenté par la viande parce que c'est quand même ça doit avoir un bon goût pour l'ours aussi. Mais les ours sont tous différents, vous savez. Donc il y a des ours qui sont plus carnivores que d'autres. Il y en a qui sont exclusivement végétariens. Et puis, des ours peuvent traverser des troupeaux de brebis sans y toucher. Ça, on l'a vu maintes et maintes fois. Ouais. C'est assez curieux. Et on a l'impression que les brebis, même les ovins, ne réagissent pas. Comme s'il y avait une communication que nous, hommes, on n'était pas capable de comprendre. Et ils ne réagissent pas. Et chacun est à sa place. Et puis, personne n'a peur de l'autre.
Alors, bien sûr, aussi, la parole aux éleveurs. Je vais vous emmener donc... en reportage, vraiment au grand air, on vous a parlé du Val d'Azun, on va mieux le découvrir. Donc du côté d'Arins, on est dans les très belles Hautes-Pyrénées. Et on va rencontrer un homme qui s'appelle Jean-Pierre Cazot.
Voilà, je vais rentrer, mon pote. Viens ici. Voilà, donc là, on les traite normalement matin et soir, mais là, je suis en fin de campagne, on les traite plus que le matin.
Alors Jean-Pierre Cazot, on a le Val d'Azun qui est quand même un val de lumière, un val d'azur hein, qui est très en bas. Donc,
Oui, le Val d'Azur, c'est une vallée très ouverte, très agricole, une vallée préservée puisqu'on n'a pas d'industrie du tourisme, entre guillemets. Il n'y a pas de station, il n'y a pas de grosses structures.
On peut y faire du ski de fond d'ailleurs.
On peut y faire du ski de fond, des raquettes et ski de randonnée.
Là, on voit bien qu'on est quand même sur un bout de couloir d'avalanche. Hein.
C'est pour ça qu'il y a ces pentes herbeuses. Et l'herbe est de qualité parce que c'est bien râpé par les avalanches, bien nettoyé, dont l'herbe pousse très fine et très riche.
Alors Jean-Pierre Cazot s'occupe du pastoralisme à Reims, dans sa commune. C'est aussi le président de l'association départementale du pastoralisme. Il siège au conseil d'administration de l'association française du pastoralisme. Et là, on est donc à 1400 mètres d'altitude sur le Gave d'Azun. On a remonté un petit peu les barrages où l'hydroélectricité a aussi toute sa place. Vous avez quelques isards qui commencent à descendre maintenant. Et oui, parce qu'on est donc début octobre. La frontière espagnole est juste derrière. À côté, vous avez le col du Soulor de la Soulaine qui prend donc le soleil, donc on est à l'adret. Il y a aussi Iris, bah oui, petite Labri, d'ailleurs je crois que vous pouvez la voir sur notre site, hein, franceinter.fr, il y a une photo aussi avec Jean-Pierre Cazot. Et puis, bah voilà, l'ours il est là. Comment ça se passe? Eh ben on voit ça avec Jean-Pierre Cazot dans ce Val d'Azun. Comment on vit avec l'ours alors aujourd'hui? Parce que c'est... Les temps ont changé, quoi. Donc,
Les temps ont complètement changé. Bon, j'ai mon père qui a 90 ans, bon, j'en ai 60. Bon, on a vécu avec l'ours tout le temps, mais avec mon père surtout, ils allaient en montagne l'été. Ils étaient esclaves de l'ours, c'est-à-dire ils surveillaient les troupeaux tout l'été, sans arrêt à côté. Ils regroupaient tous les soirs. Après, bon, l'ours a disparu. Je crois que c'est la fréquentation de la montagne qui l'a fait disparaître petit à petit. Mais c'était une vallée où les ours venaient de la vallée d'Ossau. Et on n'avait que des passages ici. Ils n'hivernaient pas dans la vallée d'Azun. Et donc on avait des passages au printemps, des passages à l'automne, au moment où ils avaient le plus faim, sans doute, où les brebis étaient meilleures en Val d'Azun qu'en Val d'Ossau.
Et voilà, parce que ils ont meilleur goût, faut le dire. Voilà.
Alors bon, réintroduire des ours, c'est en 97 les premiers. Ce qu'on trouve illogique, c'est que c'est des ours qui sont plus adaptés aux Pyrénées. La preuve, une est morte sur la deux fois de voie lourde. On n'avait jamais vu ça. Un ours qui s'approchait des villages, ça n'existait pas.
Là, ce sont des ours donc slovènes qui étaient beaucoup plus habitués en fait aux humains, ceux que nous avons, donc qui étaient plus proches des habitations.
Habitués aux humains et pas habitués aux Pyrénées. Et pas habitués à... au territoire sauvage des Pyrénées. Donc, je sais pas, moi, faire souffrir ces bêtes-là, les déraciner de chez elles pour venir les faire souffrir ici, elles sont d'abord pas acceptées dans le milieu pastoral. C'est des bestioles qui vont faire les poubelles. Donc, c'est pas très crédible par rapport à l'ours des Pyrénées qu'on avait connu.
Comment s'appelle le chien, là?
Iris et Fripon.
Ils vont bien, hein, ils vont bien. Et puis, ils sont faits pour la brebis.
Ils sont faits pour les brebis. Ce soir, il a été me les chercher. J'avais une heure et demie de marche. Et je n'ai fait que le commander. Il est allé me les chercher. Il sait.
Oui.
Vas-y, dégueulasse-moi le pantalon. C'est pas grave, c'est pas un problème. Mais non, mais c'est bien. Il y a des machines à laver, ça va parfaitement. Jean-Pierre Cazot, de quoi avez-vous peut-être le plus souffert en tant qu'éleveur, puisque vous pouvez parler un peu au nom d'une partie de la profession?
Ce qui nous a fait le plus souffrir et dont j'ai le plus souffert, c'est, on discute avec tous les touristes qui viennent nous acheter du fromage et l'ours et ci et ça, et mettre la population, les autochtones, les bergers, les uns contre les autres. Oui, vous avez de l'argent, on vous donne des sous, pourquoi vous n'acceptez pas? On vous paye une brebis, 150 euros, 200 euros, de quoi vous vous plaignez? Vous avez tout ce que vous voulez, on vous paye presque à rien faire, on vous monte tout. Mais non, c'est pas ça. Pour un berger, c'est traumatisant.
Ça, c'est sûr.
De savoir qu'une bête peut être attaquée par... Même pour si elle est indemnisée 10 fois son prix et tout ça, ça remplace jamais, ça remplace pas le souci. On les aime, nos bestioles. On les a pas pour ça. Et nous, notre rôle, c'est de préserver les brebis. On les a pour... D'abord, on les aime et on les a pour notre revenu et notre boulot. Une brebis, même si elle est indemnisée 10 fois, ça remplacera jamais la brebis. Si on en achète une autre, ça sera pas la même. On fait notre métier et c'est pas la peine de se monter les uns contre les autres. C'est pas la peine de, justement, ça crée des conflits et des conflits qui ne font rien avancer.
Allez Iris, on attend beaucoup de toi, hein? Oui. Et surtout envie de jouer, hein? Et elle sera opérationnelle quand?
Voilà, elle commence déjà cette année à bosser.
Ouais.
fait, c'est le border qui la dresse.
Le border,
c'est
le border, hein.
Ouais, qui lui apprend.
Et donc, elle se dresse derrière lui. Puis des fois, je la fais partir toute seule quand les brebis sont pas loin. Ouais. Par contre, lui, il travaille très loin. Là, tout à l'heure, il m'a fait gagner une heure et demie
et c'est incroyable,
pour aller chercher les brebis.
Ça, vous lui dites. En gros, vous lui expliquez. Il sait qu'il va aller chercher.
Il sait qu'il y va et puis il les ramène au pied. Après, je le récompense bien.
Ouais.
Et là, tu vois, il est en train de les surveiller pour voir. Il attend que.
Il a toujours l'œil.
Il attend qu'on dise vas-y.
Aujourd'hui, c'est vrai que les troupeaux sont moins gardés parce qu'on a envie de bouger, parce que quand on est un jeune agriculteur et éleveur, eh ben, on a envie de rentrer chez soi le soir, de faire des voyages, bref, de vivre un peu comme tout le monde. Donc comment fait-on ?
On a les clôtures électriques pour parquer la nuit. Il y a les patous, bon, ça a quand même des inconvénients, le patou a toujours existé, mais on est dans des zones touristiques où l'été, la montagne est de plus en plus fréquentée par des citadins, entre guillemets, qui connaissent pas les lieux, donc qui se mettent au milieu des troupeaux et les chiens défendent. Et quand ils défendent, l'homme est considéré comme un prédateur. On a des problèmes avec les patous. Bon, nous, on n'en a jamais dressé. Bon, on fait de la vente directe avec le fromage. Et la seule patou qui s'était dressée, on va dire naturellement, elle me foutait tous les clients dehors.
Oui.
Donc, à choisir, on préfère que l'ours nous prenne une ou deux brebis que de vous mettre tous les clients dehors.
Alors, les cailloux plats, qu'est-ce que c'est, cela ?
Alors, les cailloux plats qui sont bien propres, bien lisses, on met le sel, là.
Ah oui.
Pour les brebis, je leur donne un peu de sel tous les matins parce que elles manquent de sel, l'herbe est très pauvre en minéraux, donc on leur met du sel sur les cailloux et puis ça les fixe un peu. C'est quand même, elles viennent le soir, elles sont plus. Il en reste un peu. Donc, le matin, je viens distribuer un peu de sel sur les cailloux.
Et hop.
Alors, c'est pour ça que les pierres sont bien lisses.
Il y a quand même des aides, hein, faut quand même bien le dire. C'est vrai que le berger est quand même plutôt pas mal indemnisé. Vous êtes aidé aussi quand même par l'Europe. Moi, je vois dans la vallée d'Aspe, dans la vallée d'Ossau, il y a eu beaucoup de cabanes pastorales qui maintenant sont quand même bien, avec des douches, et c'est normal, il y a un confort. Ça a été pris en charge donc par le parc, donc par l'État. On aide aussi les éleveurs avec les hélicoptères, c'est-à-dire en menant leurs biens, ceux dont ils ont besoin, en début de saison. Et puis on descend aussi donc régulièrement les fromages en hélicoptère. Je veux dire par là que l'éleveur n'est quand même pas complètement désarçonné par rapport à l'ours, quoi.
Alors il y a deux choses, c'est-à-dire où je ne suis pas d'accord, c'est de lier la subvention à l'ours. Il faut aider le pastoralisme pour que les montagnes soient toujours habituées, soient toujours fréquentées. On ne peut pas vivre comme on vivait autrefois. Nous, il nous faut une douche, il nous faut les héliportages, il faut monter tout ce qui est sel, tout ce qui est nourriture dans les cabanes, tout ce qui est ce qu'on a besoin pour l'été. On ne peut pas vivre comme autrefois. Donc si on veut aider, il faut aider le pastoralisme. Et ça, c'est des deniers qui viennent du ministère de l'Agriculture. Alors, pour aider l'ours, il faudrait que le ministère de l'Environnement crache un peu au bassinet. C'est-à-dire que, d'une part, on aide l'agriculture, mais il faudrait que le ministère de l'Environnement s'occupe de l'ours, mais s'occupe vraiment de l'ours et non pas du pastoralisme.
En même temps, ce qu'on peut imaginer, c'est Pyrénées quand même sans les ours, au niveau symbolique. Au niveau peut-être de la part du rêve que les éleveurs n'ont pas par rapport à l'ours, mais malgré tout, pour beaucoup de personnes, les Pyrénées, c'est aussi ours.
Je crois qu'avec les moyens qu'on a, on pourrait, pour aider l'ours, bloquer un territoire et le mettre à l'intérieur. Ça se fait dans les Asturias, en Espagne. Pourquoi pas le faire sur les Pyrénées ? Pas le lâcher comme ça, comme une bête, comme un nuisible. On le lâche et démerde-toi, et puis après il atterrit à Lourdes sur la deux fois de voie, même qui a été près de Toulouse et tout ça. C'est pas normal tout ça.
Et puis peut-être aussi, d'ailleurs, ça nous interroge sur la place, on va dire, du sauvage, que sont les ours. Et autrefois, c'est ce qu'ils faisaient, les bergers. De temps en temps, ils ressortaient un vieux fusil de guerre et puis ils tiraient dessus. Quoi. Donc,
mais ils tiraient dessus sur l'ours, hein.
Ah oui, oui.
Et il y en a qui en vivaient, même.
Jean-Pierre Cazot, ce métier, profondément, pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous aimez ce métier, vous ?
J'aime ce métier. On en vit bien. Il y a des moments de tous comme partout. J'ai bossé ailleurs et j'ai vu que des gens malheureux ailleurs. Et puis ici, bon, on est patron de nous-mêmes, on vit à l'air pur, des fois en galérant quand il pleut, quand il fait froid, bon, on est dehors en train de traire, on a l'onglet, et puis elle change tous les ans. Là, on va redescendre au mois de septembre, on va remonter l'année prochaine, il y aura une avalanche, leur amener de cailloux, là, tiens, c'est pas pareil. Elle change, ça change tous les jours, on se lasse jamais, et puis bon... Tout le monde vient en vacances ici, donc ça prouve que c'est,
oui.
que c'est remarquable. Autant y rester.
Autant... Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Pierre, ici? Bon, pas trop d'ours, on a compris. Ok. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Et d'abord que je revienne l'année prochaine. Et rien de plus.
Un très joli bon sens de la part donc de Jean-Pierre Cazaux, et d'ailleurs aussi une très jolie mise en onde de Xavier Pestugia, mon réalisateur, Jean-Jacques Camara, puisque donc nous parlons des ours sur France Inter, dans CO2 Mon Amour actuellement. Je me retourne vers vous, coordinateur, je le rappelle, du réseau ours à l'ONCFS. Il a dit une chose, effectivement, l'argument des bergers, c'est de dire... Les Slovènes sont pas exactement comme nos anciens Pyrénéens. Alors, qu'en est-il véritablement, vous qui observez quand même de près et qui avez quand même une belle autorité dans ce domaine?
Alors, j'ai deux observations à formuler, si on peut dire, sur ce qui a été dit par M. Cazaux, là. C'est que les ours, quand ils sont... relâchés d'un endroit à l'autre, comme c'est le cas, ça a été le cas entre la Slovénie et les Pyrénées, eh bien, il leur faut plusieurs mois pour arriver à reprendre leur marque dans leur nouveau territoire. C'est ce qui est arrivé à cet ours, Franska en l'occurrence, qui donc avait traversé la route de la 4 voies entre Lourdes et Argelès et qui a été percuté par une voiture et qui en est morte. Donc, il y a une autre ours qui est également est morte. Mais c'est une période qui est assez difficile parce qu'ils ne connaissent pas leur nouvel environnement. Et ça, c'est vraiment... après, ils se sédentarisent et ils retrouvent leur marque très facilement. La preuve est qu'ils marquent des arbres, ils se retrouvent entre eux, ils se reproduisent et ils restent dans les mêmes zones. Ainsi, nous avons par exemple les 28 ours qui sont dans les Pyrénées centrales, fréquentent une superficie d'environ 2000 km², et les deux qui sont dans les Pyrénées occidentales, une superficie de pratiquement aussi égale, et deux ours. Oui. Donc vous voyez, les ours qui ont été relâchés, les ours de Slovénie, se sont vraiment bien sédentarisés par rapport à nos deux ici, qui sont dont un est pyrénéen. Donc ça n'a pas grand chose à voir, si vous voulez. Donc ils se sont vraiment bien sédentarisés. Deuxième observation, dans les Asturies et ailleurs en Europe d'ailleurs, les ours, les populations d'ours sont toutes libres, sauvages, et elles vivent dans la montagne, comme vivent tous les animaux sauvages dans les Pyrénées. Alors, c'est vrai que les problèmes sont moins aigus ailleurs, dans notre montagne, parce que le pastoralisme est beaucoup moins important, pastoralisme ovin. Et c'est vrai que de cohabiter entre les brebis et les ours, ça peut être, ça s'avère des fois assez compliqué, et c'est vrai que les bergers, donc, se plaignent pas, et ils ont vraiment, ils sont au cœur du problème, comme nous d'ailleurs. Et c'est disons que là, on est également au cœur de notre travail.
On poursuit ce voyage donc avec vous. Et on va rejoindre aussi Alain Rennes, le directeur du Pays de l'Ours, donc le monde associatif. Christian Laborde est aussi avec nous. Il prend des notes, il regarde tout ça. Il respire lui aussi l'ours. Et sur France Inter, on aime la musique et les Brigitte.
Bonjour, c'est Henry Brown, 32 Windsor Gardens. J'aimerais ajouter une garantie à mon contrat d'assurance.
CO2, mon amour.
Voilà, je vous explique. Nous avons un invité pour la nuit, un ours. Et je voudrais également être couvert en cas de dégâts. Oui, un ours. Non, un vrai.
Denis Chessou.
Un peu plus d'un mètre. Un grizzly? Pas vraiment. Remarquez, je ne l'ai pas vu le matin au réveil. Donc, combien ça me coûterait?
Sur France Inter.
Eh oui, je ne sais pas s'il faut adopter un ours. À mon avis, non. C'est quand même une bête sauvage. Eh oui, oui. Alors c'est très marrant parce que dans les livres pour enfants, vous avez plein de loups, vous avez plein d'ours. C'est vraiment le totem, c'est le doudou, le nounours. Et quand même, quand on le croit, c'est pas si évident que ça. Et donc, on va garder notre part du rêve. Alors, la part du rêve, vous l'avez, vous, complètement, Christian Laborde. Et puis, vous écoutiez avec plaisir donc Jean-Pierre Cazot, notre éleveur du Val d'Azun.
Oui, et je goûtais le bonheur de ces brebis. Elles sont heureuses, ces brebis, dans son Val d'Azun, et je crois que l'harmonie est là, bien entendu, et je pense à leur bonheur, et en même temps, je pense à la souffrance de 3000 brebis qui sont enfermées dans une laiterie usine du côté d'Espelette, puisque maintenant on enferme les bêtes dans des usines, et en l'occurrence là, à Espelette, il y a 3000 brebis et 300 chèvres enfermées, auxquels on tire le lait en permanence, et je me dis, mais enfin, au Pays Basque, à Espelette, il y a de la terre, il y a de l'herbe, comme autour des brebis de Monsieur Cazot. Donc, vers quelle agriculture va-t-on aussi? C'est cela qu'il faut se dire, et je crois que c'est le productivisme, en fait, qui est l'ennemi, et de l'homme, et de la brebis, et de l'ours.
Ce qui fait que d'un côté, on va voir la très jolie carte postale des piments d'Espelette, et ce que vous nous dites et que vous nous apprenez, parce que peut-être que localement, évidemment, on le sait, mais c'est donc qu'on a, parce que vous écrivez aussi actuellement sur les vaches et les fermes des 1000 vaches, mais c'est un peu ça, donc, ce qui se passe là-bas à Espelette.
Oui, c'est ce qui se passe. Enfin, j'ai eu les informations sur le site, pour être clair, de la Confédération Paysanne. Il y a inventorié les lieux comme ça de productivisme. Et effectivement, j'écris sur la vache, parce que moi, je l'ai rencontré dans le Tourmalet, et je sais maintenant que du côté de la Picardie, il y a une usine avec 1000 vaches enfermées. Il faut savoir ce que c'est. Elles entrent, génissent là-dedans. Elles en sortent pour l'abattoir. Elles ne voient jamais le jour. Elles ne vont jamais dehors. Et d'une part, on leur tire le lait en permanence. Et d'autre part, on utilise leur bouse pour faire de l'électricité que l'on vend à EDF.
C'est avant tout ça le
scandale. Oui. Et le scandale, c'est que l'animal est complètement... on lui retire sa dimension d'animal pour en faire une machine à fournir de l'énergie. Mmh. C'est absolument épouvantable et c'est en train de se généraliser et il faut donc lutter avec les ours, avec Fripon, avec Iris et avec les brebis de M. Cazot.
Et Alain Rennes fait cela parce qu'Alain Rennes, vous êtes le directeur à Arbas du Pays de l'Ours à Dette. Alors je tiens à dire aussi que pour le Pays du l'Ours, j'ai envie de citer aussi le FIEP qui travaille aussi dessus, l'association donc Férus. Bonjour Alain Rennes.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors Alain, donc juste un petit point avec vous quand même. Où en est-on quand même de ces brebis, évidemment, qui sont victimes de l'ours aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que vous comptabilisez cela, d'ailleurs aussi tout à fait officiellement, aussi bien avec les bergers que les services de l'État.
Oui, absolument. On peut faire un petit point. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à peu près 600 000 brebis dans les Pyrénées françaises, on note une certaine mortalité, comme c'est normal dans tous les élevages d'animaux domestiques, et de l'ordre de 3 à 5%, ce qui fait environ 40 000 brebis qui meurent par an dans les Pyrénées, de diverses causes, maladies, chutes, parasites et autres prédations, y compris celles qui n'ont rien à voir avec l'ours, bien entendu, et on comptabilise les dégâts d'ours, et on arrive pour cette année à une estimation qui devrait être aux alentours de 125-130 brebis tuées par les ours pour l'ensemble de l'année 2015.
Alors que dans une année...
Oui, pardon.
Non, je veux dire que dans une année pleine, c'est combien au total? Parce que là, vous nous dites, on va dire 130. Bon, très bien, mais...
C'est ça. Les années précédentes, on était aux alentours de 180, puis 200, puis c'était un petit peu plus élevé, ça a été jusqu'à 250, 260. Donc en fait, on note, année après année, et ça se confirme encore cette année, une baisse de la prédation, une baisse des dégâts d'ours sur les troupeaux, sur les brebis, ce dont tout le monde se félicite et se satisfait, alors que le nombre d'ours augmente, donc comme l'expliquait Jean-Jacques.
Donc ça veut dire que le programme de mesures de protection sur les troupeaux fonctionne bien en partie?
Absolument. Je pense que c'est probablement multifactoriel. Il y a peut-être des questions de météo, il y a peut-être des questions de fructification, de disponibilité alimentaire. Mais ce qu'on observe quand même comme une tendance régulière, comme une tendance de fond, c'est l'augmentation, la généralisation des pratiques de protection des troupeaux grâce à un programme qui est mis en place par l'État, qui est financé par l'État, par l'Europe. Et tout ça produit ses effets, produit ses résultats, puisqu'effectivement, chaque fois qu'une estive s'équipe avec un berger, avec des parcs de protection, avec des chiens de protection, eh bien, on observe très rapidement une baisse de la prédation et de la mortalité du troupeau en général. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ben, c'est bénéfique pour tout le monde, pour l'éleveur qui perd moins de bêtes et aussi pour la cohabitation avec l'ours, puisqu'il y a moins de dégâts.
Et on le rappelle, lorsque vous avez de très nombreuses bêtes qui meurent malheureusement de maladie, bah ça fait pas forcément la une des journaux, tandis que lorsque un ours s'attaque aux brebis, bah ça fait un peu la une des journaux.
C'est vrai que là, il y a une grande différence entre des brebis tuées par l'ours et des brebis qui meurent de maladies ou autres. On a pu, il y a quelques années, avoir des maladies dans les Pyrénées qui faisaient plusieurs milliers de victimes parmi les troupeaux, sans que ça émeuve grand monde, hormis dans le milieu agricole, bien entendu. Par contre, les brebis qui sont tuées par les ours, celles-là, effectivement, sont toujours très, très médiatisées. On en parle toujours beaucoup plus. À noter aussi, je pense que c'est important de le dire parce que c'est juste, que les brebis tuées par les ours sont systématiquement indemnisées et qu'elles sont bien indemnisées. On n'est pas à 10 fois, comme le disait M. Cazot tout à l'heure, et peu importe, mais en tout cas, elles sont bien et justement indemnisées comme c'est normal.
Alors bien sûr, bon, vous vous réclamez, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ça ne va pas du tout être tout de suite, et ce n'est pas du tout en année électorale ou préélectorale que ça va se passer. Un renforcement donc des populations, parce qu'on l'a bien dit, dans les Pyrénées donc occidentales, il n'y a que 2 mâles isolés, ça va être un peu compliqué pour eux. Et puis dans les Pyrénées donc centrales, bah, là, vous avez du monde. Bon, mais là, on sent bien que le politique, ça va être franchement urgent d'attendre. Jean-Jacques Camara, lorsque l'on parle de prédation quand même, c'est vrai que la prédation de l'ours, elle n'est pas en fait diluée quand même dans les Pyrénées, elle est noyée dans la masse, mais ça fait toujours évidemment de la peine et quelque chose à l'éleveur, même si on lui a pris que quelques brebis.
Effectivement, la prédation, elle se produit dans des endroits bien désignés souvent. C'est dû à certains ours qui sont un petit peu plus prédateurs que d'autres. Et souvent, on retrouve les mêmes bergers qui sont touchés d'une année sur l'autre. Et effectivement, c'est assez difficile de leur faire accepter la présence de l'ours. Alors c'est là que nous rentrons en scène, si on peut dire, pour essayer d'arranger un petit peu le quotidien et puis d'essayer d'étudier les ours au plus près pour proposer des modes de suivre des ours, des modes de protection. Alors, chaque estive dans les Pyrénées est un cas à part et nous devons prendre chacun des cas un par un. Et ça prend énormément de temps, mais les choses avancent un peu quand même.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter assez rapidement donc, un homme qui a été garde du parc national donc, des Pyrénées, qui est maintenant à la retraite et qui nous donne son avis aussi sur l'ours.
Le nombre de dégâts causés par les ours dans les Pyrénées est certes moins important que ce qui est commis par les chiens errants. Et moi, j'ai connu le parc au début. Il y avait entre la vallée d'Aspe et l'été à Cotteray, il y avait 40 ours. Alors maintenant, on est 23 ours, soi-disant, depuis la réintroduction. Il faut arrêter leur façon de dire, quoi. Attends, le problème, si tu veux, c'est la facilité. Nos anciens n'emmenaient jamais en montagne une bête qui était prête à mettre bas. Il la gardait à la grange et il l'amenait après. Et là, il y avait un respect. Maintenant, on amène tout. Et s'il y a des bêtes qui crèvent... Alors le gros problème aussi, c'est ce fameux problème, t'as entendu parler des vautours, qui se mettent sur les bêtes qui sont fragiles, avec un vélage ou une mise bas difficile. Et donc, ces bêtes-là qui sont fragiles, tant pis, on s'en occupe pas. Alors après, on gueule parce que ou c'est l'ours qui a touché, ou c'est les vautours qui ont mangé le petit veau ou l'agneau, et qui, en continuant à toucher la vulve, a créé une hémorragie, la bête, l'adulte en mettant bas est morte. Il n'y a plus de surveillance. Moi, j'ai été en Roumanie. On a eu la chance, il y a 15 ans, d'avoir un voyage organisé par le ministère de l'Environnement pour aller voir les Roumains dans les Carpates, aller voir comment les bergers vivaient avec 3 prédateurs, l'ours, le loup et le lynx. Et les gars, ils se protègent avec les patous des Pyrénées. Chaque berger, il a 10-15 patous des Pyrénées. Et ils y sont en permanence. Et ils ne sont pas indemnisés quand il y a des dégâts. Alors on leur disait aux bergers, mais si l'ours ou le loup vient t'en tuer 10, 15, comment tu fais? C'est moi qui paye. Voilà. Bon, enfin, c'est un peu un contraste, c'est mais quand même, voilà. Ici, c'est l'inverse. Le parc va payer, et s'il ne paye pas... Alors maintenant, le gros problème du constat, parce que nous, on a été braves.
Oui, c'est-à-dire que vous avez fait passer un certain nombre de brebis...
qui n'étaient pas imputées à l'ours.
Voilà.
Et les gars, pour faire passer un peu les conflits et tout ça, bon, mais maintenant, les nouveaux gardes, pas question. Il y a 3-4 ans, ça a failli en venir aux mains. Hein. Ouais. Ils ont failli se taper, les gardes et les bergers. Quand les ours ont été réintroduits en 96-97, Melbaz, Iva, les deux femelles, plus Pyrrhos, le gros ours, moi qui plaisante toujours avec les copains, c'était donc avant les années 2000, ça a été donc réintroduit en 96-97, et j'ai dit aux copains, vous savez pas ce qui va nous arriver? Ici, on n'a pas d'ours sédentaires. On lâche des ours dans l'Ariège. On a un noyau pur pyrénéen qui est en vallée d'Aspe et en vallée d'Ossau, et bien nous, un jour, on va compter les petits ici. Ils se sont mis à rire. Mais non, mais Christian, mais qu'est-ce que tu nous dis? J'ai dit, vous allez voir, les deux populations vont se rencontrer, hein, et les jeunes, ils vont être expulsés du territoire de l'Ache en Ariège, ils vont être expulsés par les vieux, du vieux territoire d'Aspe-Ossau, et nous, ils vont venir s'installer ici. Ça n'a pas manqué. Oui. En 2000, le jeune Néré, qui était marqué, venant des vallées de Luchon, il est arrivé ici en faisant toutes les stations de ski. Il est passé par Barège, Luzardivin, Cotteret, et il est arrivé dans la Val d'Azun,
il s'était installé. Il est moniteur de ski pratiquement celui-là. Donc.
Ah oui, il a, et les gens l'ont vu en plein mois de mai-juin, dans la neige, traverser les stations. Et donc il nous est arrivé ici, il s'est installé, on l'a eu au moins pendant 3 ans. Moi j'ai fait des constats de Néré ici, mais justement au col de Spandel. Il a attrapé pas mal de brebis, il s'est installé, on l'a eu au moins 3 ans. Et après il est allé, il a continué, c'est lui qui a été le père du petit canelote, de la femelle canelle qui a été tuée.
Et d'ailleurs, s'ils se sont exportés, on l'a bien compris, c'est parce qu'il n'y avait pas de femelles. Jean-Jacques Camara, ils hibernent déjà? Non, pas encore tout de suite, nos ours.
Là, c'est une période d'abondance, donc ils amassent de la graisse, ils prolongent leur sieste plus qu'au mois précédent, et puis ils vont se préparer doucement pour rentrer en tanière au mois de décembre.
Au mois de décembre. Christian Laborde, que vous a raconté un ours?
Eh bien, je l'ai rencontré il y a quelques jours, il me dit, écoute, prédateur, c'est pas nous qui avons transformé la vallée d'Aspe en couloir à camion, c'est pas nous qui salissons les paysages, et c'est pas nous qui collons des ronds-points sur toutes les départementales.
Oui.
Voilà ce qu'ils m'ont dit, les ours.
C'est pas mal non plus. Merci beaucoup. Alors, un grand merci à Jacques Lemaire, donc ici à France Bleu Pau Béarn, à Alain Gadan, Pauline Laverdure, Claire Destacan, notre assistante, Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Anne Gouzon, donc également. Le site, bah, vous en avez l'habitude. L'as-tu lu, mon petit loup? Et peut-être pour l'as-tu lu, mon petit ours aussi, pourquoi pas. Ce sera demain à 19h54, et dans quelques instants, la librairie francophone de la même Emmanuel Kira.